Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur RFI, votre rendez-vous quotidien pour parler de football. Et si je vous dis 5 ballons d'or, si je vous dis 5 ligues des champions, si je vous dis 50 buts à la Juventus, vous me direz évidemment c'est R7. Et nous pourrions alors tous dire bon anniversaire, l'infatigable buteur portugais venu de Madère a aujourd'hui 35 ans. Est-ce un cas unique ou le début d'une nouvelle ère pour les attaquants de demain, celle d'une jeunesse presque éternelle ou d'une longévité nouvelle ? Le Barça dans la tourmente, toujours, aujourd'hui à cause d'un tweet de Lionel Messi qui a mis le feu chez les Blaugrana et à Barcelone. Placer Eric Abidal dans l'œil d'un cyclone, n'est-ce qu'un avis de tempête ou la fragilité d'un club au grand jour ? Cette équipe qui ira demain à Bilbao s'en remettra-t-elle encore à la jeunesse d'Ansu Fati ? Le PSG, difficile vainqueur hier sur la pelouse des Canaries à Nantes, à 2 semaines de la reprise de la Ligue des Champions. Est-ce un mauvais signe pour cette équipe ? Le retour des fantômes au-dessus du Parc des Princes ? Un club, en tout cas, qui a déjà choisi de se passer d'Éric Choupo-Moting, le Camerounais, pour la phase finale européenne. Dominique, c'est vrai que ça vous inspire déjà.
J'essaie de faire les fantômes.
Vous faites les fantômes ? Oui, je fais les fantômes. C'est comme ça qu'ils font les fantômes ?
Je crois, dans mon enfance, c'était comme ça.
Habillé en blanc, avec
oui, c'est ça.
Des draps.
C'était comme ça quand j'étais petit.
Bon, bonjour.
Bonjour,
vous n'êtes pas un fantôme.
Bonjour.
Dominique, c'est vrai que notre confrère du Parisien qui sait de quoi il parle quand il parle du Paris Saint-Germain. Patrick Juillard, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Foot 365 Page Afrique, le site, vous savez tout sur l'actualité africaine. Oui, bien sûr, grand spécialiste de référence surtout. Bonjour Hugo Moissonnier.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Alors, je vous ai gardé pour la fin, mademoiselle, mais parce que quand il y a des invités féminines, d'abord nos auditeurs aiment bien et puis surtout quand c'est la première fois, on les met en valeur.
Merci.
Bonjour Ambre Godillon.
Merci de m'accueillir, bonjour.
Merci beaucoup de venir participer à nos débats,
avec
vous allez
plaisir.
Voir, des fois assez chaud
dans
Radio Foot International.
Ça va faire oublier la clim dans le studio, c'est bien.
Welcome.
Oui. Mais ça va se réchauffer, vous allez voir. Vous êtes journaliste et vous connaissez bien le Paris Saint-Germain. Vous êtes souvent au Parc des Princes, mais vous connaissez tout le monde du football, n'est-ce pas ?
Oui, oui. Hein ? J'y crois souvent d'ailleurs, Dominique, au Parc des Princes.
Voilà. Ben, on peut s'y croire de temps à autre.
C'est vrai, c'est vrai.
Allez, Radio Foot, c'est parti.
Ah guys, on my birthday, the gift is for you.
Cristiano Ronaldo, et cet homme-là fait toujours la différence. Cristiano Ronaldo.
Ronaldo, Ronaldo.
Le triplé de Cristiano Ronaldo.
Ronaldo.
Ce joueur-là n'est pas comme les autres. Cristiano Ronaldo est exceptionnel.
Fêtera-t-il son anniversaire dans une boîte de nuit de Turin, habillé de blanc ou de rose, de rouge, pardon, comme ses invités pour s'amuser, danser jusqu'à la fin de la nuit? Il aurait même pu le fêter avec Neymar, Dominique, parce qu'ils sont nés. Alors c'est incroyable, mais le même jour, Cristiano Ronaldo et Neymar.
Mais l'un qui a 5 ballons d'or de plus, non? C'est ça.
Voilà, il aurait pu venir avec les cadeaux sous le bras. C'est amusant, en tout cas, comme coïncidence pour ces deux stars du football mondial. Alors, sans doute, Cristiano Ronaldo a-t-il déjà en tête le prochain match de la Juventus de Turin avec ce maillot Bianconeri qu'il a déjà tant honoré. Son seul palmarès italien. En un an et demi, c'est 70 matchs, 50 buts, 13 passes décisives, un titre de champion d'Italie et une super coupe d'Italie.
Phénomène.
C'est pas mal, mais et je n'ai cité que ce qui se passe en Italie, parce que je peux vous dire 5 Ligues des Champions, il a participé à gagner 4 Coupes du Monde des clubs, 5 Ballons d'Or, vous l'avez déjà dit, et puis 3 titres de champion d'Angleterre, Première Ligue.
Un euro. Ligue des Nations.
Pardon.
Ouais,
oui,
on se souvient,
en plus.
Ça, Hugo. Hein.
Ouais.
On se souvient bien de l'euro.
J'étais dans ce même studio.
Pourtant.
Exactement,
pourtant,
à la même place.
Il jouait pas la finale.
De France,
il y a presque 4 ans.
Je vous remercie.
Il était presque entraîneur.
Il était presque entraîneur. C'est ce Cristiano Ronaldo dont on a à peu près déjà tout dit, n'est-ce pas, au fil des émissions. On disait encore hier, on citait ce nouveau record qu'il vient d'égaler pour l'instant, qui est le nombre de buts marqués à chaque match, comme le fit David Trezeguet lorsqu'il était du côté de de la Juve, 9 buts, en 9 matchs marqués à chaque fois, mm-hmm. parce que c'est plus de 9 buts. Peut-il être comparé à un autre attaquant du même âge, de 35 ans, qui serait aussi performant? Alors nous, hein, Hugo à RFI, on a un trip un peu africain.
Aristide Bansé.
Alors, on a pensé.
J'ai pensé à Didier Drogba, c'est voilà. Presque le même niveau et presque le même palmarès.
Oui, il avait 37 ans quand il a gagné la Ligue des Champions avec Chelsea. Et on se demandait si vous avez. Alors, on va pas remonter au temps de Pelé, mais.
Il était un petit peu plus jeune, il avait 34 ans, mais c'était.
Pardon. C'était dans déjà sa 35e année, absolument.
Avancé. Ouais, parce qu'il démarre 78 à Drogba, mais effectivement, champion d'Europe en 2012 et clairement le meilleur joueur de son équipe lors de cette campagne. J'ai sélectionné aussi, Annie, d'autres vieillards, illustres vieillards. Je pense à Klose, Miroslav Klose, l'Allemand. Ah ouais. 78 également, sa date de naissance. Et il devient meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, s'il vous plaît. Et en plus, champion du monde.
36 ans.
À 36 ans, en 2014. Et puis un autre que vous connaissez bien, Dominique. Il est suédois, il a un gros nez. Disent certains, il est arrivé, il n'avait pas encore 31 ans du côté de Paris.
Vous lui direz en face. Hein.
Oui, mais moi aussi j'ai un gros nez, donc globalement il le prendra bien si ça vient de ma part. Mais en gros, il arrive à pratiquement 31 ans à Paris, 156 buts plus tard, il part à Manchester United, 35, 36 ans, c'est pas mal non plus. Parce
et son nom
que première
par
saison,
un Z.
28 buts, son nom commence par un Z. Oui, bah, globalement on n'a même pas besoin de le citer, son nom tout le monde l'a reconnu.
Zlatan
Ibrahimovic.
Et il revient en Europe là.
Et il revient en Europe là, il a 38 ans, il porte de nouveau les couleurs du Milan.
Et il a marqué.
Et il marque.
Et
un bon
vieillard aussi. Il avait gagné la Ligue Europa à 35 ans, lui, avec Manchester United.
Exactement.
Donc c'est un
au
joueur.
Terme d'une saison, très prolifique.
À la différence de Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic a toujours été avant-centre, c'est-à-dire dès l'âge de 20 ans, quand il a commencé sa carrière, c'était un avant-centre. Il a empilé les buts pendant plus de 15 ans. Alors que Cristiano Ronaldo, ce qui est absolument exceptionnel et ce qui fait sa force et son intelligence, c'est
et
que
son charme, dites-le.
Au fur et à mesure, non, je suis pas, moi, je suis pas, si vous voulez, je suis pas là-dedans, je suis pas dans l'admiration, mais
je plaisante, Patrick, bien sûr.
Là où je trouve génial dans sa carrière, toujours, hein. C'est qu'il a su
évoluer.
D'un joueur qui couvrait beaucoup de terrain, qui était un joueur de côté, qui percutait, qui faisait des différences, ça c'était le Cristiano de Manchester United, qui était un dribbleur surtout et qui donnait des ballons de but à d'autres attaquants. Il est devenu un finisseur, un joueur qui n'a plus les moyens de répéter à ce point-là les courses, mais qui, sur des courses courtes ou sur des appels plus courts, peut faire des différences énormes par son intelligence de placement, par les capacités qu'il a aussi, la détente qu'il a. On se rappelle de cette tête à plus de 2,40 m.
Incroyable.
Ce qui n'est pas absolument exceptionnel, mais ce qui est exceptionnel pour un joueur de cet âge-là.
C'est quand même exceptionnel, Patrick.
Non, il y en a d'autres dans l'histoire des joueurs
qui
sautent à cette hauteur. Mmh. Mais par contre, à 35 ans, il y en a très peu. Et ensuite, d'être resté compétitif aussi en changeant de club. Mmh. C'est-à-dire qu'il a fait la première ligue anglaise, il a fait la Liga avec le Real, et maintenant, il fait la Serie A avec un égal bonheur et il a cumulé à peu près
à chaque fois.
Oui, certes, mais encore faut-il s'imposer, même si c'est dans les meilleurs clubs, c'est pas gagné quoi.
Ambre, on se souvient aussi, on parlait de but emblématique de Cristiano Ronaldo, c'est sans doute celui qui quand même reste dans les mémoires, cette bicyclette se retourner dans le stade de la Juve quand il portait encore le maillot du Real.
Où il est applaudi par l'ensemble du stade de la Juventus pour l'exploit.
A-t-il raconté envie d'aller ensuite jouer pour cette équipe?
En tout cas, on va dire qu'il y a eu un point de feeling entre le joueur et les supporters, mais là où je suis tout à fait d'accord avec Patrick, c'est que c'est vrai que bon, Zlatan, on parlait donc de Zlatan Ibrahimovic, hein, je ne travaille pas de suspense, c'était un joueur extraordinaire, mais non seulement il était à une autre altitude, on ne va pas se mentir, que Cristiano Ronaldo, mais là où Patrick a raison, c'est que Ronaldo, il a eu l'intelligence tout au long de sa carrière de réussir à se renouveler pour devenir un autre joueur au fur et à mesure que son âge le lui permettait. C'est-à-dire que là où Patrick insistait, se renouveler tactiquement, oui, pour peut-être puiser dans d'autres ressources, mais aussi physiquement. C'est-à-dire qu'avant, quand il était ce dribbleur, il était beaucoup plus mince, beaucoup plus fit. Il jouait sur la percussion, désormais c'est plus sur le physique, la détente, mais aussi mentalement. Il arrive aussi à se préserver désormais pour les grandes rencontres, à accepter davantage de sortir par exemple en cours de rencontre. C'est vraiment se renouveler sur tous les points de vue, et c'est il en banalise l'extraordinaire, Cristiano Ronaldo, de par sa régularité.
Ça lui donne un côté mutant, en fait.
Mais c'est un
dans
monstre.
Tous les sens du terme.
C'est
quoi.
Un monstre de rigueur, de toute façon, Cristiano
oui,
Ronaldo.
Oui, c'est ça. Vous dites mutant, il est allé la chercher, ouais. Cette longévité.
Oui, oui.
Mehdi Benassia,
il a travaillé toute sa carrière pour. Hein.
Voilà, le Marocain qui a été donc, le coéquipier de Ronaldo à la Juve pendant quelques mois, pas très longtemps, je crois, la saison dernière, racontait une anecdote, oui. Un match. Il rentre assez tard à Turin et Ronaldo lui demande s'il n'est pas chaud pour aller faire un petit footing, enfin aller courir sur le tapis dans une salle de sport, alors qu'on est déjà à une heure assez avancée de la nuit. Donc c'est quelqu'un qui
voilà,
aime se faire mal.
Moi j'ai l'habitude de dire à Annick, puisque souvent on les a comparés, comme ils ont joué tous les deux dans le championnat d'Espagne, que Messi est peut-être le plus grand joueur de tous les temps, ou un des plus grands joueurs de tous les temps, et Cristiano Ronaldo est le plus grand athlète de tous les temps. C'est-à-dire que c'est un sportif qui a mis un soin infini à se préparer comme un dingue. Moi je lui en avais parlé à Karim Benzema quand ils jouaient ensemble au Real Madrid. Il a été prescripteur et un inspirateur. C'est-à-dire que Karim, après, il a acheté des caissons, les fameux caissons qu'on récupère pour les mettre chez soi, la salle de musculation. Il a aménagé une pièce un peu Cristiano Ronaldo chez lui. Tout ce qu'il avait vu chez Cristiano Ronaldo, il l'a importé. Et de même que Karim Benzema n'est plus le même joueur au Real qu'à Lyon. Il a forci en masse musculaire, il a gagné en vélocité, il a gagné dans tous les domaines. Et ça, voilà, donc c'est un modèle de sportif de haut niveau. Vous disiez en rigolant, est-ce qu'il aurait pu être à l'anniversaire de Neymar ? Non, parce que peut-être qu'il le fait, mais déjà, il ne le montre jamais sur les réseaux sociaux. Il ne met pas ce genre de choses. Il met plutôt ses abdos, ses pompes.
Ou ses enfants.
Ou ses enfants, maintenant. Sa famille. Mm-hmm. Voilà. Et d'après ce qu'on sait, ce n'est pas le genre à aller guincher à 2h du matin dans les rues de Madrid ou de Turin.
Hier, justement, on parlait de la nouvelle blessure de Ousmane Dembélé et de l'hygiène de vie que demande une vie d'athlète et de joueur. Marc Libra était assis à votre place. Et Marc Libra, justement, il parlait de l'hygiène que lui-même a vécu pendant plus de 15 ans pour rester à un bon niveau. Et il évoquait la rigueur que recherche toujours Cristiano Ronaldo.
Pourquoi Ronaldo aujourd'hui tient ? Qu'est-ce qu'il fait du matin au soir, Ronaldo ? Il est concentré sur la récupération, le sommeil, tout de A à Z.
De A à Z. Alors, on le disait, il nous le disait en rigolant, maintenant que les joueurs ont effectivement un masseur pour les genoux, un masseur pour les cuisses et un pour les mollets, est-ce que aussi on va aller vers plus de longévité des attaquants ? Parce que finalement, des gardiens comme Buffon à 40 ans, ils peuvent toujours être dans les buts. On a connu à l'époque Dinosov et il y a d'autres joueurs en défense centrale aussi. Des joueurs peuvent rester plus longtemps, mais en tant qu'attaquant, c'était plus rare. Hugo a trouvé quelques exemples, mais il n'y en a pas tant que ça.
Moi, je me souviens d'avoir vu à l'Euro 2004 au Portugal. Il débutait en sélection avec Figo.
On l'a tous vu, oui.
Voilà. Donc, peut-être qu'il est aussi un peu d'une ancienne génération, parce que l'Euro 2004, c'était donc par définition il y a 16 ans. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il y avait moins de réseaux sociaux, on était déjà dans la starification des joueurs, mais peut-être qu'il s'est mis plutôt, dans l'idée d'être un sportif de haut niveau, ce qui aujourd'hui, Ousmane Dembélé, moi, je pense qu'il pourrait, mais il ne veut pas, d'après ce que j'ai compris pendant
la discussion. Non, mais tous les progrès aussi qui aident à perdurer, Dominique, par exemple, ne serait-ce que les nutritionniste maintenant. On sait que ça a une importance énorme dans la vie d'un athlète.
En fait, ils gagnent tellement d'argent tous qu'ils ont une PME autour d'eux où il y a le cuisinier chez eux qui vient faire à manger parce que c'est important de savoir quels aliments manger, quels sont ceux qui sont riches, pas trop gras, tout ça. Mm-hmm. Ils ont le préparateur physique et ils ont après, ça peut être un psychologue, un naturopathe, ça peut être un psychologue. Il y a toute une batterie, un vrai staff organisé, 5-6 personnes comme ça. Ça peut être même un garçon pour s'occuper de la sécurité. C'est comme ça, en fait, ils n'ont plus qu'à penser qu'au foot. Ils sont ils sont un peu déresponsabilisés. La vraie vie leur échappe. Ils ne connaissent pas le prix d'un ticket de métro ou d'une baguette. Mais au moins, ils sont dans leur monde, dans leur bulle, dans leur caisson. Et ils ne font que ça. Et c'est ça l'avenir.
Pour donner le meilleur.
C'est ça l'avenir. Oui.
Patrick.
On parle de Serie A puisque Cristiano Ronaldo évolue dans ce championnat. Mais je lisais la semaine dernière dans France Football un très bon papier de Valentin Paoluzzi sur pourquoi y a-t-il autant de joueurs trentenaires qui performent en Serie A.
Oui, parce que j'aurais pu donner d'autres exemples, et notamment un certain Francesco Totti.
Oui, il y a
Totti. Il y a encore Luca Toni.
Il y a un certain Franck Ribéry, d'ailleurs, qui y est depuis pas très longtemps.
La saison dernière, le meilleur buteur, à part Ronaldo en Serie A, c'était Fabio Quagliarella, 36 ans, et qui continue encore de marquer.
Di Natale, à l'époque.
Et voilà,
alors,
absolument.
C'est quoi, c'est la nourriture méditerranéenne?
Principalement, alors, Valentin a expliqué que c'était principalement l'attention portée au régime alimentaire. Ils évitent les écarts, ils évitent même d'aller se faire, comme certains joueurs, parfois, ils vont dans certaines chaînes bien connues dont on ne citera pas le nom et ils se font un petit plaisir comme ça quand il n'y a pas de match avant une semaine. Eux n'en font jamais. Il y a plus d'attention portée à ce qu'ils boivent et ce qu'ils ingurgitent. vite. Et je pense que ça, sur le long terme, alors quand on a 20 ans, ça fait aucune différence, mais sur le long terme, ça fait des différences et on le voit.
Ambre, ça veut dire que Kylian Mbappé, on en a encore pour 15 ans à le voir courir sur un terrain.
Ça dépend ce qu'il mange.
Kylian Mbappé, c'est le prototype de l'esprit Cristiano Ronaldo. S'il y a bien un successeur tout désigné dans la lignée de machine de guerre, taillée pour gagner, taillée pour se donner les moyens de réussir, et dont toute la vie est orientée autour du football et de sa propre réussite, c'est bien Kylian Mbappé, oui. Après, est-ce qu'il finira dans le championnat italien? C'est une question, mais c'est vrai que c'est un championnat qui aime bien accueillir les vétérans. Alors, peut-être qu'il y a une hygiène de vie là-bas qui est différente, mais je pense que Cristiano Ronaldo n'a pas attendu d'être à Turin pour le coup.
Non, je pense qu'il est partout.
Mais en revanche, je pense que c'est une destination qui peut être taillée pour les vétérans, entre guillemets, hein, reste relatif, parce que si c'est un championnat beaucoup plus tactique, mais beaucoup moins physique en première ligue.
Sur la nutrition, il y a une attention de longue date à ça, oui, en Italie. Et Michel Platini, dès son époque, dès l'époque où il signe à la Juventus dans les années 80, il l'avait dit dans des interviews, j'ai été frappé par le côté professionnel du club, y compris sur des aspects comme...
On est quand même au pays des pâtes.
Voilà. Hein, oui, mais les pâtes en soi, c'est pas un mauvais aliment. Pour
c'est ce que je dis, c'est exactement le contraire. Hier, Marc Ibra nous disait, j'ai mangé des kilomètres de pâtes, alors j'imagine que c'est des spaghettis, mais il a mangé des kilomètres de pâtes à l'huile d'olive.
Les sucres lents, c'est bon. Annie, il y a aussi les staffs qui prennent conscience de ça. Aujourd'hui, il y a des chefs performance, qu'on appelle des chefs performance, qui sont aussi chargés de...
Oui, autour de l'équipe de France ou des équipes nationales aussi.
Du coup, durer aussi longtemps, ça va être l'apanage simplement des Cristiano Ronaldo ou des Kylian Mbappé, des joueurs d'exception, ou bien est-ce que ça va se poser comme une norme? En clair, maintenant, la carrière d'un footballeur, elle va durer jusqu'à plus de 35 ans en moyenne.
Il y a une partie mentale, Zidane, quand il revient en équipe de France et qu'il fait cette Coupe du Monde 2006 qui se conclut par son coup de tête contre Materazzi. Donc, il a 35 ans pendant la compétition, puisqu'il est de juin.
Et 34.
Mais il a 34 il a 35 ans pendant la compétition. Et il est sublime, quoi. Il est au sommet. Il fait un France-Brésil qui est génial.
Oui, mais c'est son barreau d'honneur.
Mais donc, c'est une partie mentale aussi. Ouais. Donc, ça dépendra. Ousmane Dembélé, s'il faisait confiance à tous les gens qui l'entourent, le cuisinier, le problème de ça va pas dire qu'il durerait, parce que si son mental ne suit pas, s'il pense qu'il ne faut pas faire plus d'efforts que ça, parce que parfois on a un talent inné, là où Ambre a raison, c'est que Kylian, il sait qu'il a un talent de folie, mais il bosse.
Moi, là où j'apporterais juste une nuance, c'est qu'aujourd'hui, les joueurs comme Kylian Mbappé ou les successeurs tout désignés, ils ont des calendriers infernaux et qui défient toute logique, qu'avant n'avaient pas forcément tous les joueurs.
Et ça peut empirer en plus.
Mais aujourd'hui, je pense qu'au niveau des blessures, ça va être très, très dur pour un joueur sur l'impact physique que ces saisons éreintantes causent. Bon. Je pense que ça va être très difficile d'aller beaucoup plus loin.
Mais d'où le fait que, c'est le serpent qui se mord la queue, d'où le fait qu'il faut bien manger, bien dormir, tout ça, parce que Cristiano, finalement, il n'a pas été.
Mais aujourd'hui, rares sont les joueurs qui sont épargnés par les pépins physiques.
En tout cas, on peut remarquer donc qu'à 35 ans, Cristiano Ronaldo n'a pas choisi d'aller jouer ni en Chine, ni aux États-Unis, ni dans le golf, et qu'on le verra encore peut-être longtemps en Italie, où finalement c'est peut-être mieux de vieillir que d'aller ailleurs. Parabéns, Cristiano Ronaldo, comme on dit en langue portugaise. Allez, on continue, on va aller vers l'Espagne.
La meilleure ligue du monde.
Leo Messi, encarando la portería de Levante para cruzar ese balón y marcar el segundo para el Barça. Gol, 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 gol.
Sincèrement, je n'aime pas faire ce genre de choses, mais je crois que chacun doit assumer ses responsabilités et ses décisions. Les joueurs, sur le terrain, nous sommes les premiers à reconnaître quand nous ne sommes pas bien. Les responsables de la direction sportive doivent aussi assumer leurs responsabilités et surtout les décisions qu'ils prennent. Pour finir, je crois que lorsqu'on parle des joueurs, il faudrait donner des noms, parce que sinon, ça salit tout le monde et ça alimente des choses qui se disent et ne sont pas vraies.
Signé Lionel Messi. On connaît son talent balle au pied et il peut donc être aussi incisif avec un crayon à la main ou un bout de doigt sur des réseaux sociaux. Hier soir, en quelques lignes, Lionel Messi a donc créé un tsunami pour le quotidien Sport, le KOFC pour Diario AS toujours de Barcelone, alors que Marca à Madrid titre aujourd'hui le puñetazo, le coup de poing de la pulga. Pour Mundo Deportivo, c'est Messi contre Abidal, parce que ce message de Messi s'adressait au Blaugrana Eric Abidal, qui lui avait tenté d'expliquer, peut-être maladroitement, on va voir, que la relation entraîneur-joueur, c'est-à-dire entraîneur Valverde et joueur, n'avait pas toujours été bonne, que même les joueurs s'entraînaient pas trop et que donc il fallait évincer Ernesto Valverde. Résultat, le président Bartomeu, président du Barça qui était à Bruxelles, est arrivé en urgence. Il a convoqué une réunion avec Abidal. Est-ce que c'est le chaos à Barcelone? C'est la question qu'on va poser à François David. Bonjour François.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Alors vous vivez en plein chaos, François?
Oui. Depuis quelques semaines, hein, à Barcelone, c'est un peu le chaos. Alors là, ça a été hier le tsunami. Hein, je ne sais plus quel journal a mis ça, mais c'était ça, hein, une crise incroyable. Parti finalement de pas grand-chose, d'une interview donnée par Abidal. Interview d'ailleurs obligé de faire par Bartomeu et Oscar Grau, que le Paris Saint-Germain connaît bien, qui est le directeur général du club, pour justifier un petit peu sa position de directeur sportif, pour justifier finalement le non-recrutement du Barça au mercato d'hiver. Et avec les questions faisant, on est arrivé au sujet de Valverde, pourquoi son licenciement et cette boulette d'Abidal, qui je pense n'avait pas voulu viser certains joueurs en particulier, mais il a donné une sensation générale que lui avait, que Bartomeu avait, que finalement tous les sociaux et tous les suiveurs du club du FC Barcelone avaient, c'est que bon, avec Valverde c'était gentil les entraînements, voilà, il savait très bien gérer peut-être le groupe, certaines stars comme Suarez ou Messi, mais que finalement l'équipe ne donnait pas totalement le maximum de son rendement. Et Messi l'a pris pour une attaque personnelle, à chaud, parce que ça n'a pas été long.
87 minutes entre la publication de l'interview et sa réponse. Ça fait une heure.
Et ben d'ailleurs, son entourage a été surpris. Je lisais ça là, à travers quelques confrères espagnols qui avaient contacté l'entourage de Messi. Et ils disaient que même eux avaient été surpris de la réaction. Donc c'est pas un community manager. Non, c'est Messi qui a vraiment écrit ça. Et que voilà, donc là toutes les alarmes ont été allumées. Ce matin, Messi s'est entraîné avec le sourire. Il paraissait
Oui, on a tous vu les images du coup sur les réseaux sociaux. Ouais.
Et ben bien sûr, images d'ailleurs filtrées par le Barça. Et maintenant, on va savoir qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer avec Abidal? Effectivement, José Maria Bartomeu était à Bruxelles, il avait un rendez-vous avec le président du Parlement européen. Il est revenu en catastrophe aujourd'hui en urgence pour pouvoir parler avec Abidal, pour savoir ce qui s'était passé. La première tendance était qu'effectivement, soit Abidal allait démissionner ou allait se faire envoyer par le président du Barça. Bah ouais, et en fait la tendance ce serait que Abidal finalement puisse rester, se parle avec Messi, hein, qui se connaissent très très bien, ils ont gagné plusieurs Champions League ensemble, plusieurs titres, ils ont vécu dans le même vestiaire, et que ça se calme. Voilà, actuellement on en est là, mais bon, avec le Barça, on n'est plus une surprise près.
Est-ce que de loin vous avez l'impression que c'est un tsunami du côté du Barça?
C'est une crise
ou la suite d'une crise.
Les titres que vous avez annoncés annoncent un match Abidal Messi. Bon, il n'y a pas de match, hein. Il va se faire écrabouiller par Messi.
Il le connaît bien quand même.
Oui,
hein.
Mais bon, on n'est pas dans la même dimension.
Catégorie. Oui. Je comprends pas, c'est pas censé être plus ou moins son supérieur hiérarchique.
Le football est le seul domaine où le salarié est plus important que le supérieur hiérarchique.
Il
n'y
a pas de supérieur hiérarchique.
Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, c'est que le directeur sportif, non, mais
c'est surtout
une certaine prestance.
Il n'a pas l'habitude. Hugo, il faut provoquer. Il n'a pas l'habitude de ce genre de sortie, donc c'est quand même extrêmement rare. C'est là où il y a la crise, c'est que provoquer une réaction de Messi, c'est quand même rare. Et puis ça montre pour moi, hein, c'est comme mon avis, qu'Abidal n'a pas le niveau pour s'occuper de cette fonction.
Vous partagez le même avis, Ombre?
Alors, pour moi, il y a deux choses sur Eric Abidal.
Abidal, oui, récemment, on a raconté l'histoire un peu surréaliste de Cédric Bacambou. Je ne dis pas que c'est que de la faute de Abidal, mais c'est vrai que du coup, au bout de la ligne, nous, on est au bout de la ligne, ça paraissait un peu bancal comme histoire.
Alors, il y a deux choses. Il y a le Eric Abidal, directeur sportif. Donc, si on parle vraiment du volet sportif...
Alors, directeur technique, en plus.
Directeur technique, mais un peu équivalent de directeur sportif en Espagne.
Je suis d'accord.
Mais bon, si on parle vraiment du volet purement sportif, ça, c'est qu'un exemple du recrutement qui est hyper délétère depuis des années au FC Barcelone et où tout est à peu près une catastrophe.
Il est là que depuis 2018, lui. Hein.
Oui, mais depuis 2018, ça, néanmoins, c'est...
Ça a empiré.
Oui, c'est quand même pas fameux ce qui se passe du côté du FC Barcelone, en tout cas sur la case recrutement et départ. Là, sur ça, je le condamnerais en tant que directeur sportif si on veut l'attaquer. Sur son bilan personnel, oui. Pour sa prise de position médiatique, moi, je ne le ferai pas. Parce que je me dis, directeur sportif ou technique, si vous voulez, lui, il a le droit de parler du sportif ou du technique. Même si ça froisse l'ego de M. Lionel Messi, finalement, pour moi, ce n'est pas une erreur de communication. C'est maladroit parce qu'il s'en prend au pape, hein, clairement. Voilà, voire à son cardinal, parce qu'il s'en prend un petit peu à Xavi aussi, visiblement. Mm-hmm. Il fait passer des messages dans son interview. Mais ça fait du bien aussi de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière et de se rendre compte que des joueurs un petit peu choyés, protégés par la direction, on ne s'en prend jamais
tout
à
puissant.
Eux. Tout puissant, clairement, et Bartomeu les protège tout le temps. Eh bien, Eric Abidal, il est aussi dans son rôle d'évoquer le sportif. Peut-être qu'il aurait dû le faire en privé, je pense que ça aurait été mieux. On lave pas son linge sale en public. Ah en oui, revanche, à mon sens, la réaction de Messi est encore pire. C'est-à-dire que pour moi, le directeur sportif, il est dans son bon droit de parler du sportif. Mais en revanche, le capitaine demander à Eric Abidal de désigner des joueurs comme ça ouvertement, c'est peut-être parce qu'il a dit de donner des noms, c'est exposer potentiellement son vestiaire, c'est ne pas protéger ses joueurs et c'est de mettre son club encore plus dans la tourmente.
Justement, François, il y a des histoires évidemment qui tournent autour de ce club et de ce vestiaire. On dit que les joueurs français auraient pu peut-être aussi donner un peu trop leur avis du côté dans l'oreille d'Eric Abidal contre Valverde.
Bah, ils disent effectivement que les joueurs français se seraient plaints du manque d'intensité finalement dans les entraînements de Valverde. Et on sait qu'il y a finalement une rivalité. C'est un peu comme ce qui s'était passé dans les années, au début des années 2000, au Barça, entre les joueurs catalans, avec Guardiola, Sergi et compagnie, et les joueurs hollandais qu'il y avait à l'époque, entraînés par un entraîneur hollandais qui était Van Gaal. Donc là, le directeur sportif est français, il y a beaucoup de Français au Barça. Et il y a cette mini rivalité effectivement qu'il y a dans le vestiaire. C'est pas une rivalité, c'est disons que Messi l'a depuis tout le temps. Suarez c'est son meilleur ami, voilà. Et il se heurte finalement à un groupe de Français légitimes parce que Griezmann est champion du monde, l'anglais est un bon joueur, Umtiti aussi est champion du monde. Et il y a cette petite tension.
Même Ousmane Dembélé.
Oui, mais c'est pas lui qui réclame l'intensité dans les entraînements, ça on peut en être sûr.
Lui réclame l'intensité.
Lui aussi est champion du monde.
Il y a un bon cuisinier aussi. Mais bon, c'est autre chose. Mais là, ce qui se passe actuellement, c'est la tendance, c'est que Bartomeu, effectivement, pourrait garder Abidal, lui demanderait de faire un effort d'aller voir Messi, ce que je pense Abidal ferait, même s'il a un énorme ego évidemment, comme tout ex-grand joueur, mais il le ferait, il pourrait être dans son rôle, on avait raison, je pense qu'il était dans son rôle hier de dire les choses qui n'allaient pas, mais voilà, pour pas faire de vagues et surtout pour pas montrer l'image d'un président qui donne tout le pouvoir à un seul joueur, aussi grand le joueur qu'il est, qui est Messi, le meilleur joueur du monde peut-être, mais ne pas lui donner toutes les clés. Et je pense que Abidal, pour Bartomeu, est à pare-feu.
Hugo ?
Oui, j'avais une question sur la perception d'Eric Abidal en Catalogne du côté de Barcelone, François David, parce que au-delà de ses limites en tant que directeur technique, c'est aussi un symbole en raison de ce qu'il a traversé sur le plan personnel. On se souvient que Puyol, à l'époque, en 2011, le fait soulever, lui donne le brassard le temps de soulever la coupe de la Ligue des Champions à l'issue de la finale. Quelle perception on a du travail d'Abidal en tant que directeur sportif technique ?
Bah, on est assez frustré en fait ici parce que effectivement quand il a été nommé, il remplaçait son nom m'échappe, celui qui était manager général, hein, Pep Segura, hein, qui était assez honni, qui n'était pas apprécié. La nomination de Abidal a été plutôt bien vue parce que comme tu l'as dit Hugo, c'est un symbole de ce Barça-là, un joueur qui s'était relevé d'un cancer et plutôt jeune avec des bonnes idées, qui connaissait le vestiaire, surtout qui pouvait faire le lien entre Bartomeu et le vestiaire. Mais effectivement, on est assez déçu de son travail. Alors bon, moi je connais un petit peu ce qu'il fait. Lui, il travaille sur beaucoup de championnats. La France est son championnat favori. Il a des listes, les 5 meilleurs joueurs de chaque tranche d'âge. Il essaye de voir ce qui est possible de faire. Maintenant, il a aussi les mains liées par Bartomeu, qui aime bien aussi s'impliquer sur les transferts, et par la situation financière exécrable dans laquelle est le Barça. Donc c'est pas simple pour lui, mais effectivement là, si jamais il se relève de ça, je pense que son poste sera grandi. Maintenant, ça va jouer là dans les 48 heures pour lui, je pense.
Patrick, quand on parle de suite de crise, c'est aussi parce que effectivement sur les résultats, ça suit pas tellement. Justement, les blessures et les résultats frustrants des fois pour cette équipe qui a perdu la tête du championnat il y a quelques temps, c'est aussi tout autour de ce psychodrame. Il y a aussi plein de petits détails qui se sont accumulés.
On formule pas mal de reproches à Eric Abidal avec le temps. D'abord, un recrutement un peu trop exclusivement franco-centré avec beaucoup de joueurs français.
Oui, ça, qui c'est sont partis déjà, on pense à Malcolm, à Totibo.
Certains sont français ou venus de Ligue 1,
venus
bien
de
sûr.
France, voilà.
Certains sont déjà partis, d'autres sont restés, pas toujours avec une réussite absolue. Ensuite, Abidal, évidemment, moi je suis pas certain qu'il va être viré incessamment sous peu parce que Abidal est l'homme de Bartomeu et Bartomeu est actuellement en pré-campagne. Oui. Pour la présidence du club. Donc, si toutefois Bartomeu décidait de se séparer d'Abidal, ça, il désavouerait sa propre politique. Et ensuite, Abidal, il paye aussi le fait d'avoir tenté de faire venir Xavi pour remplacer Valverde. Et Xavi a refusé, justement pour des raisons politiques, parce que Xavi roule pour un autre candidat et il ne voulait pas légitimer Bartomeu en venant tout de suite au Barça. Donc, il est un peu dans un sac de nœuds, là, Abidal. Ça, je pense que ça le dépasse en partie. Il est trop récent dans le contexte catalan pour être vraiment maître de tout ça.
Dominique, pour terminer.
Non, mais quand je disais qu'il n'est pas le niveau, c'était parce que je pense qu'il n'a pas la dimension politique du poste de directeur technique ou de directeur sportif. Et pour comparer avec Leonardo, évidemment que là, on est face à un maître. Et donc, ça, avec Abidal, oui, peut-être qu'il peut l'acquérir. Hein, mais il est jeune dans ce métier-là, mais c'est ça qui lui manque. Et donc, il n'aurait pas commis. Je suis d'accord pour qu'il parle, mais il n'aurait pas commis ces petites erreurs de langage. Parce que maintenant, on a envie de savoir qui sont ceux qui ne bossaient pas sous Valverde. Comme Messi, on a envie de savoir.
Moi, il y a un petit truc qui m'a un petit peu choqué dans ce qu'a déclaré Eric Abidal, c'est qu'il a dit en tant qu'ancien joueur, ça me choque, ça me surprend dans ses déclarations, que les joueurs ne s'impliquent pas assez. Donc, je vois pas pourquoi maintenant il a un poste de direction, il a pas à dire en tant qu'ancien joueur. Pour moi, ça fait un peu, je suis spectateur de la situation, je suis le plus grand fan de l'équipe, mais c'est lui qui peut décider, quoi.
François-David, on verra ça, on suivra ça avec vous, n'est-ce pas, de très près. Vous nous raconterez la suite de cette réunion d'urgence.
Ou d'autres choses encore à venir, parce qu'avec le Barça, on est plus au bout de nos surprises. Et il y a ce match contre Naples, en Ligue des Champions, en huitième de finale. Là, ça va être tendu aussi.
Alors justement, avant, il y en a un, et ça sera demain, à San Mamés, à Bilbao, où c'est jamais facile pour le Barça. C'est là qu'ils ont perdu d'entrée en championnat. Hugo, le Barça s'est remis dans le bon sens, en fait. En tout cas, ils n'ont pas perdu au cours du week-end, et ils arrivent à être toujours à 3 points du Real. Et c'est grâce à un jeune joueur, Ansu Fati, révélation de la Masia ces derniers temps.
Oui, dont on a régulièrement parlé, puisqu'il est né en Afrique, en Guinée-Bissau. Alors effectivement, là, je ne vais pas vous replonger dans les années 70 ou 80, c'est beaucoup plus récent. L'année qui a vu la naissance d'Ansu Fati, il a 17 ans, un peu plus de 17 ans, le jeune prodige. Et alors, à 17 ans et 94 jours, pour être très précis, il a effacé une marque importante en Espagne, celle du plus jeune joueur à Russie, un doublé au 21e siècle dans le championnat d'Espagne. Donc 17 ans et 94 jours pour Ansu Fati. La précédente marque, elle était la propriété de Juan Miguel Jiménez sous les couleurs de Malaga contre Saragosse. Voilà, pour la petite histoire, en 2010, 17 ans et 115 jours pour Jiménez et 17 ans et 94 jours pour inscrire un doublé en Liga pour Ansu Fati. 5 buts, donc 4 en Liga en 13 apparitions cette saison déjà pour ce jeune prodige.
Alors un buteur, évidemment, le Barça en a besoin. Écoutons Quique Setién, l'entraîneur récemment arrivé et qui vraiment est séduit par ce joueur.
Je crois que Ansu
Fati est un jeune qui s'en sort très bien. Nous savons tous qu'il a un grand potentiel. Nous devons comprendre que c'est un jeune joueur et il faut lui donner un peu de liberté pour qu'il parvienne à montrer tout ce qu'il a en lui et qu'il puisse se développer. En plus des deux buts qui ont été décisifs, je salue la façon dont il a aidé l'équipe et la défense. Il a travaillé dur et a apporté beaucoup de solutions. Il nous a vraiment rendu service.
La passe exceptionnelle de Messi. Ansu Fati, et ça, Fernandez est battu. 1-0 pour le Barça. Étincelante la passe de Lionel Messi pour la finition d'Ansu Fati. Messi, il échappe encore. Messi accroché. Crochet de Messi. Et Messi. Ouh là là, Ansu Fati. Fati maintenant, le tir 2-0 pour le FC Barcelone. C'est toujours les mêmes. Lionel Messi, Ansu Fati. 2-0 pour les Blaugrana. Fati, 17 ans. Premier doublé en Liga avec les Catalans.
François, la lumière est venue de Ansu Fati au cours du week-end avec ce doublé contre Levante pour ne pas décrocher donc du Real et rester à 3 points. Est-ce que c'est un signe aussi que cette équipe du Barça s'en remette pour l'instant à un joueur de 17 ans et 94 jours ?
Mais il a pris quelques jours. Hein,
ils ont pas tellement choix, Annie. Ils ont pas tellement choix vu que Luis Suarez est blessé, Ousmane Dembélé est blessé et Carles Aleñá est parti au Betis. Donc ils sont obligés de faire jouer Ansu Fati. Heureusement, le jeune répond bien. Premier doublé ce week-end. Vous l'avez dit, le protégé de Messi, il faut dire que son frère est l'agent de Ansu Fati, il a giclé l'autre agent d'avant, il l'a pris sous son aile, donc Messi a officiellement adoubé le jeune prodige de Guinée-Bissau. Effectivement, on peut pas tout miser sur les épaules d'Ansu Fati. C'est pour ça, Cani, que Barça va recruter un joueur et tout porte à croire que c'est un joueur de Rétafé que va acheter le Barça, un joueur qui s'appelle Angel, un attaquant, 32 ans, qui a marqué déjà 9 buts cette année, une clause à 9 millions d'euros. Et selon les bruits en Espagne, c'est ce joueur-là qui devrait arriver pour les Blaugrana. Bon, c'est pas, ça fait pas rêver les foules, mais c'est un joueur solide de Liga et bon, l'attaque ne comptera pas que sur Ansu Fati, Griezmann et puis Messi.
D'accord. Merci beaucoup, François David, d'avoir été en direct avec nous dans Radio Foot International. Dominique, juste une question Ansu Fati pour jouer un quart de finale qui va être face
au LAP.
À Naples.
Le huitième.
Oui, le huitième. Oui, pour l'instant, on connaît que le huitième, mais c'est aussi s'appuyer. Oser, disons.
Après,
c'est oser.
Après, c'est pas tellement lui le problème. C'est est-ce que Barcelone sort un petit peu de sa saison qui pour moi n'a toujours pas commencé véritablement. Est-ce que Barcelone se met un petit peu à refaire peur ou Barcelone reste dans son jus actuel qui fait que bah parfois il est capable de coups d'éclat parce qu'il y a quand même des joueurs exceptionnels type Messi. Puis parfois,
parfois
il peut perdre.
Il se passe pas grand chose.
Il se passe pas grand chose. Dans le jeu, on s'ennuie.
Oui, malheureusement.
C'est ça, effectivement. C'est plus
et c'est pour ça que Setién arrive.
Ansu Fati est un jeune joueur prodige. Hein. Enfin, on n'est pas loin de Jadon Sancho ou Mbappé hein, en termes de niveau technique. Hein.
La saison dernière, le Real disait pareil avec Vinicius, toute raison gardée.
Ansu Fati, c'est au-dessus. Hein. Ouais. Il a plus d'intelligence de jeu, il voit mieux les choses. Enfin, pour moi, c'est au-dessus.
On verra ça, et on verra ça notamment eh bien, lors d'un Barça-Real, puisque l'horaire a été fixé. Hein. Désormais, ce Barça-Real aura lieu le 1er mars prochain, et ça sera à 21h. Allez, on va parler du PSG.
Encore une accélération fulgurante de Mbappé. Et évidemment Di Maria qui a éliminé ce début de match. Il a été passeur, pas décisif, mais des passes parfaites. Là, il est à la conclusion d'une passe en retrait de Kylian Mbappé. Angel Di Maria qui délivre le Paris Saint-Germain qui dominait dans cette première demi-heure. Et voilà le deuxième but signé Kerrer sur un corner déposé par Angel Di Maria. Et ça fait donc 2-0. Simon qui est lancé, Simon face à Navas, Simon qui marque pour Nantes et il s'en excuse, Kimpembe de ce moment d'égarement.
Un dixième succès quand même à l'extérieur pour le PSG, vainqueur hier soir donc à la Beaujoire face à de très vaillants Nantais. Le score 2-1 traduit bien et mal un match que les Parisiens sans Neymar ont dominé durant 68 minutes et puis il y a eu donc cette erreur de Kimpembe et le but canari de Simon. L'équipe a eu du mal à essuyer ensuite les vagues jaunes hein, qui tentaient d'arracher un match nul butant sur cet excellent gardien qu'est Keylor Navas. Pour Thomas Tuchel, vous allez l'entendre, ce genre de mésaventure peut servir à toute l'équipe.
On a peut-être oublié de faire le troisième pour finir les choses et avec le peut-être la première erreur de nous. Chaque match peut changer et c'est bien qu'on fait l'expérience, que c'est pas seulement moi qui parle toujours de cette chose-là. Si on fait une erreur ici, c'est dangereux parce que ça peut être un 2-1 et après les choses changent. Non, maintenant c'est un 2-1 et les choses changent. Et voilà, on a fait l'expérience et on a gagné. Pour ça, je suis très très heureux avec cette performance et avec cette victoire. C'est super.
Ambre Godillon, est-ce que c'est un verre à moitié plein ou à moitié vide? C'est-à-dire, est-ce que l'équipe, quand elle se met en danger, qu'elle s'en tire, eh bien, on se dit qu'elle peut en tirer profit? Ou est-ce qu'elle se met trop dangereusement en danger?
Moi, je pense qu'elle peut en tirer profit. La victoire à la clé, elle est là. Le PSG continue ses victoires. L'essentiel a été assuré. Et je pense que c'est bien qu'il y ait des signaux d'alerte dès maintenant. Parce que le pire ennemi du Paris Saint-Germain, on le sait notamment, pour le juge de paix, la Ligue des Champions. Bah, le pire ennemi du PSG, c'est le PSG. C'est notamment soit quand il est en proie au doute et qu'il s'y est pas préparé, soit quand il y a des erreurs individuelles. Bah, celle de Kimpembe, la face à Nantes, c'en était une. On s'en souvient d'une autre de Thilo Kerrer face à Manchester United. Mais du coup, voilà, se préparer à ce genre de scénario, pour moi, c'est idéal. En plus, le Paris Saint-Germain continue à creuser son écart en tête de la Ligue 1, donc il n'y a pas vraiment de conséquences. Et je pense que le Paris Saint-Germain, ce qu'il faut retenir de ce match quand même, c'est qu'ils n'ont pas été en difficulté face aux Nantais. Ils se sont mis en difficulté. Et c'est là où Thomas Tuchel a raison. Enfin, moi, en mon sens, c'est que voilà, il faut tirer déjà les enseignements. Il faut que ça arrive. Il vaut mieux que ça arrive maintenant. Et il faut continuer maintenant avec la petite sonnette d'alarme au-dessus des joueurs qu'il faut rester concentré pendant 90 minutes, ne pas tomber dans l'excès de confiance. Quoi.
Dominique, il vous en fait peur ?
J'ai pas la même lecture que Ambre. Ah. Oui, moi je trouve que moi, quand le tirage au sort a eu lieu de la Ligue
alors,
des Champions.
Alors notons-le, c'était une équipe abyss, on va dire. Il n'y avait pas Neymar, il n'y avait pas Thiago Silva, Marquinhos.
C'était l'équipe B moins de Nantes. Hein, donc.
Aussi.
Donc non, mais quand il y a eu le tirage au sort de la Ligue des Champions, les gens ont plutôt dit que c'était plutôt un bon tirage. Et en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais tirage parce que le Paris Saint-Germain, sa fragilité, elle est psychologique. Donc il peut tomber contre n'importe qui.
Bah, on est plutôt d'accord alors.
Non, mais bah, oui, mais tu as presque dit que c'était un mal pour un bien. Et pour moi, en fait.
Et si on peut identifier cette faiblesse psychologique dès maintenant.
Mais en fait, elle est toujours là. En fait, elle ne change pas et ça commence à m'inquiéter parce que ce n'était
que Nantes. Chaque année, le problème, c'est que le Paris Saint-Germain arrive à pleine bourre en Ligue des Champions et que la fragilité psychologique et les doutes, ils sont empreints en Ligue des Champions. Là, si ça arrive avant et que le Paris Saint-Germain continue de perdre,
oui, mais ça veut
dire. Mais si le PSG arrive à gagner dans la difficulté, ça c'est nouveau.
Bah, c'est pas
la saison dernière, Paris Saint-Germain, dès qu'il était en difficulté, il n'arrivait pas à gagner.
C'est vrai, ça c'est vrai, mais la difficulté, c'est que elle est là et elle est que contre Nantes et c'est Nantes qui arrive à déclencher ça parce que Kimpembe fait une erreur. Et là, je vois une équipe qui se liquéfie,
qui panique
contre Nantes. Alors contre une équipe un mur jaune de Dortmund où là, ils vont en profiter parce que c'est Nantes. Excusez-moi.
C'est pas le mur jaune des Canaries.
Non, voilà. Je vais faire un raccourci, mais Nantes, c'est nul. Dortmund, pendant que le PSG se fragilisera.
Alors, ils seront sans Marco Reus, vous avez vu, il s'est blessé, il ne sera pas là pendant un mois.
Ils peuvent en mettre 4 pendant le petit moment de fragilité. Là, si c'est Dortmund en face, ça tombe.
Alors, on dit 4, c'est ça.
Mais ça tombe.
Ah, bah, ça
et là, vous êtes, par exemple, vous menez 1-0, il y a 1 partout, et vous en prenez 4, il y a 5-1. Et 5-1, vous êtes éliminé. Donc voilà, c'est ça le problème. C'est que
mais est-ce qu'il aurait fallu gagner ça 5-0 comme Saint-Etienne, comme Montpellier, comme le Paris Saint-Germain? Ça fait 20 matchs qu'ils n'ont pas perdu. Ils empilent.
Je préfère quand le Paris Saint-Germain gagne 5-0.
Ah, il vaut mieux gagner 5-0, n'avoir aucun signal d'alerte pour arriver en Ligue des Champions et se liquéfier dès qu'on a un difficulté.
Quand même, il y a déjà
c'est
eu une alerte.
C'est leur faute le signal d'alerte, c'est
mais
ça
non, mais à domicile contre Monaco.
Quoi.
Oui.
Il y a ce match où ils encaissent 3 buts et où dans le jeu, ils sont loin d'être souverains et parfois ils sont même dominés par Monaco. Oui, certes, mais
en
tout ça, en fait, moi, ma question n'est pas ce que peut faire le PSG. Si le PSG, si tout se passe bien, comme dans l'agence touriste, si le plan se déroule sans accroc, le PSG, aujourd'hui, tous les joueurs sont au top, ils peuvent battre n'importe qui. Mais en revanche, on sent que cette équipe, dès qu'il y a un vent contraire, dès que, par exemple, donc là, le vent contraire, c'est une passe un peu moyenne et un peu hasardeuse de Verratti, Kimpembe qui fait n'importe quoi et ça envoie Moses Simon au but. Bon, ça arrive. On sent que dès que quelque chose comme ça arrive, l'équipe n'arrive pas à redresser la barre. Alors effectivement, il y avait ni Marquinhos ni Thiago Silva, certes.
Et Neymar surtout.
Non, mais je parle pour la défense.
Pour la défense, oui. On avait quand même leur Navas. Hugo.
Mais Navas, voilà, c'est là, peut-être le point positif, c'est Navas.
Ah ben, ça fait quelques temps quand même.
Hugo. Là, vous parlez de ce qui se passe sur le terrain. Quid de ce qui se passe en dehors? Ça, pareil, ça revient un petit peu souvent à cette période-là de l'année pour le PSG. Un coup, c'est une polémique sur l'anniversaire de Neymar. Là, on a vu les états d'âme de certains joueurs, ceux de Mbappé le week-end dernier. Voilà, c'est le cas Cavani aussi, et son transfert raté à l'époque, c'était son retour tardif de vacances. Et souvent, a posteriori, on analysait ça comme des signes avant-coureurs d'un fiasco à venir en Ligue des Champions. Et là, du coup, les analyser comment ces signes
La fragilité, Hugo, c'est au moment, donc c'est dans les 20 dernières minutes, au moment où peut-être quelques joueurs qui étaient deux jours avant, à 4 heures du matin, encore en train de rigoler à l'anniversaire de Neymar, ont peut-être aussi senti que jouer au football, c'était compliqué en Ligue 1. Même si c'est que de la Ligue 1, même si c'est que Nantes, ils ont aussi peut-être eu le retour de bâton de la soirée d'il y a deux jours avant. Tout ça, c'est pas bon tout ça. Alors, il vaut mieux l'avoir tout ça maintenant que dans 10 jours. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'en fait, le PSG change jamais, quoi.
Oui, c'est ça, on a l'impression que personne n'apprend de ces mini-erreurs qui, à la fin, donnent
un jour sans fin avec Bill Murray, quoi.
Pour moi, ils ont un peu plus de marge grâce à Keylor Navas, parce que le même match à Nantes, la saison dernière, avec Areola à la place de Navas dans les buts, peut-être que ce match est perdu, hein.
Peut-être.
Du moins qu'il n'y a pas une victoire au bout, il y a peut-être juste un nul. Maintenant, c'est vrai que cette équipe, il semble qu'elle ait une propension à répéter les mêmes erreurs de manière un peu comme un jour sans fin, quoi. Donc, ça revient sans cesse. Quoi.
Donc attention, danger pour les deux semaines à venir, hein, puisqu'il en reste à peine 2 semaines. Ça sera le 18 à Dortmund. Une dernière information autour du Paris Saint-Germain et qui va beaucoup intéresser nos auditeurs. L'entraîneur a décidé de se priver d'un attaquant dans cette phase finale de Ligue des Champions pour intégrer un troisième gardien de but dans l'effectif. Il s'agit de Marcin Bulka, c'est
ça? Tout à fait,
c'est
ça. Le Polonais.
Le Polonais.
Parce que Garrison Innocent était blessé. est blessé.
On avait vu à Metz en début de saison quand tous les gardiens étaient absents.
Quand Areola voulait pas jouer.
Et Navas n'était pas arrivé. Voilà.
Donc il sera derrière Navas et Sergio Rico. Voilà. C'est l'international camerounais Éric Choupo-Moting qui a été sacrifié. Est-ce qu'on a sacrifié un bon soldat, Patrick Fuyard?
C'est quelqu'un qui a jamais fait de vagues. C'est quelqu'un qui était proche de Tuchel, qu'il avait déjà eu comme joueur à Mayence. Maintenant, malheureusement pour lui, Choupo-Moting, c'est pas le meilleur Neymar. Attaquant du monde et il est même pas franchement au niveau des ambitions du PSG. Disons-le, même si j'aime bien le bonhomme, mais
il a quand même dépanné en début de saison. Il a marqué 3 buts au tout début de championnat.
Il participe à 3 matchs de Ligue des Champions, dont une fois titulaire à Bruges.
Oui, alors le problème c'est qu'il participe sur la première partie, quand sur la phase aller de la phase de poule. Après, on le voit plus trop. Et c'est vrai que là, son temps de jeu, il s'est
étiolé au fur et à mesure que la saison
a fini par avancer parce que des stars ont fini par vraiment rentrer. Et du coup, aucune apparition en Ligue 1.
Et puis, vous avez Sarabia.
Franchement, c'est pas contre lui, l'histoire. L'histoire n'est pas contre lui. C'est juste une question de règlement parce que Paris a trop d'étrangers.
Juste rappeler, ça fera plaisir à nos auditeurs que c'est pas n'importe qui. Africain et pour le football camerounais, Choupo-Moting, encore récemment, au mois de novembre, il portait le brassard du capitaine des Lions indomptables. Il l'a porté deux fois lors de la dernière CAN, 49 sélections, 14 buts.
Mais il joue plutôt sur un côté avec problème, l'équipe nationale, le problème, pas comme attaquant de pointe.
Le problème, ce ne sont pas les qualités intrinsèques d'Éric-Maxime Choupo-Moting, c'est la concurrence à laquelle il fait face dans le secteur offensif du Paris Saint-Germain. Là, on parle de cadors vraiment sur la scène européenne.
De cadres fantastiques, parfois même.
Un joueur comme Sarabia, quand on fait appel à lui,
il a marqué en Coupe, il a marqué en Ligue 1, il a marqué en Ligue des Champions, il marque tout le temps. Donc des joueurs comme Pablo Sarabia passent dans la hiérarchie devant Éric-Maxime Choupo-Moting, ça ne remet rien. Ses qualités, mais ses qualités, voilà.
Si Cavani était parti pour l'Atlético de Madrid, il aurait été inscrit en fait, parce qu'il y avait pas assez de joueurs issus de la formés dans le pays concerné, donc la France, qu'il fallait enlever. Donc un joueur étranger, un joueur qui n'a pas été formé en France, qui est Sagaï, donc il fallait enlever ou Herrera, ou Verratti, ou Cavani, ou Neymar. Donc tout ça, évidemment, vous voyez bien qu'on peut pas les enlever, ces joueurs-là. Donc c'est tombé sur Éric-Maxime Choupo-Moting, parce qu'en attaque, il y a déjà pléthore de choix.
Trois gardiens, c'est pas trop ?
Non, parce que il faut toujours mettre trois gardiens. Si vous vous blessez.
Non, Coupe du Monde et tout, on a l'habitude, effectivement.
Le problème, c'est que s'il y en a un qui se pète pendant une campagne de Ligue des Champions, il n'y a plus qu'un ressort derrière.
Voilà. Mm-hmm. Oui. Voilà. Vous êtes obligé d'en mettre trois parce que si votre titulaire ou votre numéro 2 se blesse, après vous. Voilà,
jouer sans gardien.
Oui.
Là, ça serait
la même logique que Didier Deschamps en équipe de France quand il emmène trois gardiens avec lui.
Ouais.
Et bien voilà, et pour refermer Radio Foot International, on reviendra sur cette nouvelle qui n'en est donc pas une autour du président de la Fédération ivoirienne de football. Sidi Diallo l'avait dit à Éric Chorin hier soir et nous l'a confirmé aujourd'hui, il n'est pas encore décidé sur sa candidature. C'est-à-dire, il n'a pas encore dit s'il serait ou non candidat à sa propre succession, puisqu'il a déjà accompli deux mandats, Patrick Juillard.
Ouais, tout ça, c'est sur fond d'une possible, voire probable, candidature de Didier Drogba à la présidence de la Fédération ivoirienne. Donc, il paraît évident que si Didier Drogba se déclarait, peut-être que ça changerait les choses pour Sidi Diallo. Mais effectivement, je pense qu'il est encore trop tôt pour lui. Il n'est pas fixé, à mon avis, sur son choix.
Il a dit qu'il n'était pas encore fixé et que pour l'instant, donc, il n'y avait pas d'informations autour de cela. Pas plus que d'élections, mais l'article 42 de la Fédération ivoirienne de football explique qu'il doit organiser des élections uniquement dans l'année suivant la fin de son mandat. C'est-à-dire que la fin de son mandat, c'est en février et il a jusqu'à décembre pour décider d'une
date.
Rien de presse. Et nous en reparlerons sans doute dans un prochain Radio Foot International. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci Ambre Gaudion. On vous réinvitera, je crois.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup. Merci à David Finzel qui m'a aidé aujourd'hui à préparer cette émission. À la réalisation, il y avait notre maestro Laurent Salerno. On vous dit tous à demain. Merci. RFI.fr